Bonjour, quel bonheur aujourd'hui de recevoir Christophe Girard. Christophe, merci d'avoir accepté mon invitation. Votre nom, Christophe Girard, est associé au monde de la culture, des arts, de l'amour, de la grandeur de la France, de son image. On sait que vous êtes passé, comme on dirait, un chouïa près, souvent, à des postes de ministre de la culture. Et on sait que si vous aviez été ministre de la culture, vous auriez sans doute marqué l'histoire de la culture en France. Comme des gens comme Jacques Lang ou des prédécesseurs comme Malraux ont su le faire. Ceux qui vous connaissent le savent. Vous avez su marquer l'histoire à un échelon, certes prestigieux, mais pas celui national, celui de Paris, pendant plus d'une vingtaine d'années, avec de multiples innovations que vous avez lancées, notamment dès le début du mandat de Bertrand Delanoë, dont les Nuits Blanches des Galeries, etc. Mais on va parler d'un tout autre sujet, on va rester à la culture, Christophe Girard, puisque vous avez été secrétaire général d'Yves Saint-Laurent, ensuite directeur stratégie mode du groupe LVMH, vous avez bien connu Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, et vous publiez La vie selon Saint-Laurent, donc de Christophe Girard, publié aux éditions RGR. J'aimerais commencer par cette première question. Quand on va dans le monde, vous faites un sondage aux quatre coins du globe, qu'est-ce qui incarne la France? Citez-moi des noms. Les plus âgés, une époque, aurait dit Maurice Chevalier, on aurait pu dire Joséphine Baker, on aurait pu... Et on va citer Yves Saint-Laurent. Je suis certain qu'il arrive dans les 3-4 premiers. Vous êtes d'accord?
Ah oui, je suis tout à fait d'accord, parce qu'il a, de surcroît, inscrit son nom graphiquement avec un sigle, alors on dit un logo aujourd'hui, qui est le sigle YSL qu'avait dessiné le grand artiste Cassandre. Mais c'est vrai que lorsque l'on cite Yves Saint-Laurent et la grandeur de la France et ce rêve que la France porte grâce à ses artistes, ses créateurs, ses créatrices, il y a aussi toutes ces femmes qui ont accompagné Yves Saint-Laurent, et je pense en particulier à Catherine Deneuve, et qui est restée si fidèle et qui est vraiment aussi une belle incarnation de la France et d'Yves Saint-Laurent. Mais il y a d'autres femmes également, et il y avait beaucoup d'artistes autour d'eux. Je pense à, évidemment, les musiciens, les musiciennes, je pense au théâtre, je pense à Marguerite Yourcenar, dont il avait fait le costume pour l'entrée à l'Académie française. Voilà, Saint-Laurent, c'était ça. Et ça reste sans doute dans l'ADN de la France, comme une fierté à partager. Donc moi, il était venu le temps de transmettre ce que j'ai eu la chance d'observer et auquel, dans mon rôle de secrétaire général, puis de directeur général adjoint, auquel j'ai pu précontribuer pour que la société rayonne. Voilà, nous étions nombreux et ça allait des petites mains dans les ateliers de haute couture, des premières d'ateliers, en passant après par voilà, les directrices et directeurs, les différentes personnalités qui faisaient l'entreprise sous la houlette de Pierre Berger, qui était un patron assez rare.
On a eu beaucoup de biopics au cinéma sur Yves Saint-Laurent, mais votre livre ne remplacera jamais ces biopics parce que vous avez été vraiment proche. Là, vous n'avez pas été extérieur, vous avez été à l'intérieur. Comment écrire un livre quand on a été à l'intérieur ? En portant énormément de respect, d'amour, sans non plus trahir des secrets, mais tout en voulant être intéressant et dévoiler aussi des choses. C'est une balance, c'est un équilibre.
Alors je sais que l'époque est un peu à la rapidité, aussi au narcissisme, et je pense parfois au voyeurisme, mais je pense que quand on a eu la chance, comme moi, d'avoir un bureau qui se trouvait à équidistance entre celui d'Yves Saint-Laurent et de Pierre Berger, d'avoir pu donc à la fois travailler avec les deux, avoir pu observer. D'abord, j'ai su garder les archives, les notes que l'un et l'autre me faisaient, des photographies de nos nombreux voyages, que ce soit en Chine, que ce soit en Russie, que ce soit en Australie, aux États-Unis, enfin dans le monde entier, au Japon. Et bien fort de toutes ces archives, j'ai pu raconter une histoire qui est un peu comme un livre un peu historique. C'est un peu un documentaire écrit. Et quand on a la chance d'avoir vécu, d'avoir tous ces souvenirs, parfois avec des secrets, on peut révéler des secrets tout en étant respectueux, sans être voyeuriste ou sensationnaliste. Donc dans le livre, on y apprend en effet des choses que l'on ne sait pas. On y découvre des traits de caractère, des comportements, des personnages. Ça, c'est le livre qui permettra de les découvrir. Donc j'encourage à ce qu'on l'achète beaucoup et qu'on le lise.
J'encourage aussi parce que c'est franchement... Je ne sais pas si, dans quelle rubrique je le mettrai. Je le mettrai presque dans le livre d'histoire de France.
Merci. C'est vrai qu'Yves Saint-Laurent et Pierre Berger d'ailleurs. Mais Yves Saint-Laurent, c'est l'histoire de France. Lui qui est né à Oran, dans l'Algérie française de l'époque.
D'une famille plutôt noble.
Une famille bourgeoise. Oui, bourgeoise. Je crois que son père était dans les assurances. Sa mère était d'une grande élégance, de très jolies sœurs. Il a d'ailleurs une nièce, Marianne, qui est d'une grande beauté, qui elle aussi porte bien l'image et les couleurs de son oncle.
Les senteurs de son enfance, de cette Algérie natale, ont-elles influencé son amour qu'il a eu quelques décennies plus tard quand il a découvert le Maroc ? Finalement, il y avait une frustration de ne plus pouvoir retourner en Algérie. Donc finalement, il a reporté cet amour pour cette terre du Maghreb sur le Maroc.
Je ne sais. Incontestablement, si, vous avez raison, Yannick Hurien. Incontestablement, son amour, ses souvenirs, ce qui l'a marqué au profond de lui-même, dans son cœur, dans ses yeux, dans son imaginaire, c'était cette lumière absolument inégalable de l'Afrique du Nord. Et donc au Maroc, je pense qu'ils ont tous les deux trouvé à la fois un raffinement, aussi bien dans les paysages, dans l'architecture, mais également dans les jardins, dans la cuisine, dans les vêtements. Donc le Maroc est un pays incontestablement qui a marqué son imaginaire. D'ailleurs, souvent dans les vêtements, dans les collections, aussi bien de prêt-à-porter que de haute couture, on voyait apparaître un caftan, bien sûr. Ou une blouse marocaine.
Il aimait la civilisation, Yves Saint-Laurent. C'est un homme de civilisation. Puisque ce qui caractérise le Maroc, le point commun qu'a le Maroc et la France, c'est qu'on est deux vraies civilisations. L'Algérie n'était pas une civilisation. L'Algérie était un pays un peu plus artificiel. Maroc l'est vraiment.
Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'Afrique.
Vous êtes cultivé, vous le savez.
Oui, je sais bien. Mais je rêve...
L'Algérie est plus artificielle.
Mais je rêve d'aller en Algérie parce que... Beaucoup me disent combien Alger est une ville magnifique, Oran...
Prégnante.
Ouais. Je sais que la maison d'Yves Saint-Laurent a été achetée par une personne privée, un Algérien, qui l'a restaurée. Et c'est vrai que, comme je suis allé d'ailleurs récemment, avant de terminer ce livre, à l'île d'Oléron, parce que je voulais voir là où était né Pierre Berger, l'école que dirigeait sa mère, et voir comment ce petit garçon... tellement indépendant, me disait sa mère, avait grandi sur une île et combien il avait gardé un esprit insulaire. Et donc j'irai un jour en Algérie, mais pour voir où était en effet né Yves Saint-Laurent également.
Yves Saint-Laurent a fait les plus belles créations pour les femmes. On a l'impression que cet homme aimait éperdument les femmes. Est-ce pour cela qu'il ne les touchait pas ? Je parle de sa vie privée. Il les aimait éperdument. Comment ? Voilà, il est comme tel des déesses. Vous voyez ce que je veux dire ?
Vous savez, il y a des hommes gays, comme moi par exemple, qui finalement aiment peut-être mieux ou d'une meilleure manière les femmes.
C'était le sens de... Voilà, vous avez compris
voilà
exactement
que
le sens de
ma lorsque naturellement on a une attirance physique, sexuelle pour une femme. Mais aujourd'hui, je pense que les hommes et les femmes naviguent beaucoup plus librement entre dans leur sexualité, entre voilà une relation hétérosexuelle et homosexuelle. Et je pense que la bisexualité est peut-être une réponse de paix à souhaiter.
Alors, je vous ai posé cette question parce que vous commencez directement votre livre en évoquant 1981, quelques années après votre entrée auprès d'Yves Saint-Laurent et de Pierre Berger, avec la dépénalisation de l'homosexualité, qui était une date très importante pour vous.
Ben oui, parce que je réalisais lorsque, et c'est dans une conversation avec Robert Badinter et Elisabeth Badinter récemment, que je leur disais, mais je réalise que j'étais partie de ces jeunes, garçons ou filles, qui finalement vivaient hors la loi. sans se rendre compte qu'on était hors la loi, puisqu'on vivait discrètement. Mais on vivait hors la loi. Il a fallu 81, donc 82, 80 à l'élection de Mitterrand, 82 la loi Badinter et de Fer, pour que l'homosexualité soit dépénalisée et que, ça, et que, voilà, que la sexualité homosexuelle, c'est une sexualité oui, banale comme une autre.
Peut-être pour des jeunes qui nous écoutent, et je parle vraiment avec beaucoup d'humilité sur votre contrôle, Christophe Girard. On dit vivez hors la loi, ça ne veut pas dire qu'il y avait des répressions et qu'on vous tapait dessus. Hein, ça veut dire...
Non, mais on pouvait être arrêté.
On pouvait, voilà.
Et c'est arrivé.
Hmm.
C'est arrivé. Donc,
Mais il y avait des quartiers gays, il y avait déjà des communautés gays, des gens qui s'affichaient gays.
Et y a, ça oui, il y avait des gens qui vivaient leur vie, mais...
On savait que c'était hors la loi, c'est tout.
C'était hors la loi et vous savez, moi je suis d'une génération qui a participé à l'intégration et à ce que nous soyons comme tout le monde. Parce qu'au fond, comme me disent mes fils, l'homosexualité est un non-sujet.
Voilà.
Et on aimerait que ce le soit, mais dans le respect de chacune et de chacun.
Quel était votre rôle auprès de Yves Saint-Laurent et de Pierre Berger? Vous occupez de l'international parce que c'était aussi.
Alors, j'avais des fonctions. Je suis entré, après avoir fait un stage lorsque j'étais étudiant à Tokyo, j'avais trouvé comme petit boulot, grâce à un ami de mes parents, d'être à la fois vendeur dans une boutique Saint-Laurent, de faire le mannequin, vous verrez, il y a une affiche d'ailleurs, dans le livre, assez amusante, d'être traducteur, donner des cours de français. Et puis, j'ai eu la chance d'entrer chez Yves Saint-Laurent comme inspecteur commercial parce que Pierre Berger voulait que la marque Saint-Laurent, qui devenait une marque mondiale, qui était devenue une marque mondiale, soit contrôlée et que les excès éventuels des partenaires que nous avions soient évidemment regardés de près. Et donc, très vite, je suis devenu secrétaire général puisque Pierre Berger a eu le génie de faire entrer Yves Saint-Laurent dans l'histoire en le faisant entrer dans les grands musées du monde, dont la première exposition d'un couturier vivant au Metropolitan Museum de New York en 83, qui est la photo d'ailleurs de la couverture du livre. C'est une photo que j'ai prise d'eux lorsque il regarde une dernière fois avant l'ouverture au public en décembre 83 l'exposition montée par Diana Vreeland. Et voilà, mon rôle, c'était à la fois l'harmonie entre les studios de création, c'était d'être un peu chef de cabinet de Pierre Berger, c'est-à-dire d'être son relais auprès de qui il me demandait de contacter. C'était les relations avec les institutions publiques, avec la chambre syndicale de la haute couture, avec le musée de la mode, avec...
Et travailler aussi sur les problèmes juridiques, j'imagine.
Alors, il y avait une direction juridique.
Le piratage, les...
Voilà, on était très impliqués. On était très impliqués dans le domaine des contrefaçons, bien évidemment. Mais mon rôle n'était pas un rôle financier. Moi, je n'avais rien à voir avec la finance. J'étais lié avec les studios de création, avec les services de presse, avec l'image et avec les projets.
Ce qui est fascinant, et ça n'existe plus, c'est ce type de couple très unique, Pierre Berger, Yves Saint-Laurent, où l'un s'occupait complètement de la création. J'ai l'image, il ne devait même pas savoir ce qu'il y avait sur les comptes en banque, peut-être. Et l'autre, c'était vraiment le businessman, le juridique, les relations institutionnelles. Est-ce que c'était ça ou c'est...
Alors, c'est vrai, en partie. Mais j'ajouterais que Pierre Berger avait sans doute une frustration... qui était celle de ne pas être un artiste. D'où son amour des artistes et d'où sa passion et son engagement à soutenir écrivains, à soutenir metteurs en scène, comédiens, comédiennes.
Quand savait-il qu'il n'était pas un artiste? Peut-être l'était-il et qu'il n'a jamais passé...
En tout cas, il faisait des affaires d'une manière artistique. Il n'était pas un homme d'affaires classique. Il n'était pas tellement comme un grand patron traditionnel. Et puis, il aimait beaucoup l'écriture. Hein. Il a été proche de Giono.
Il y a derrière une photo. Hein,
oui, qui est très belle, de qu'il m'avait donnée, où il était avec Jean Giono. Et une lettre d'ailleurs, une interview que j'ai faite d'Élise Giono, la veuve de Giono, qui raconte Pierre Berger à l'époque en couple avec Bernard Buffet venant rendre visite au Giono à Manosque.
Il faut bien comprendre aussi que vous, qui avait cette notion du monde de l'entreprise, cette entreprise Saint-Laurent à l'époque avec Pierre Berger était une grande entreprise mondiale, c'était une belle grande entreprise française qui était encore indépendante. On n'a plus ça.
Alors, cette société, en effet, fondée par Yves Saint-Laurent et Pierre Berger en 1961, avec ouverture en 1962, avait été financée par deux Américains, dont je parle d'ailleurs dans le livre, qui croyaient dans le génie, dans le talent de Yves Saint-Laurent, et Pierre Berger était quelqu'un qui savait convaincre. Et ensuite, la maison de couture a été leur maison de couture. Les parfums, eux, ont été financés par Charles Wzoritz, qui était cette grande marque de cosmétiques, rachetée ensuite par les laboratoires Squibb. Et Yves Saint-Laurent et Pierre Berger ont souhaité racheter leurs parfums, qui ensuite sont allés dans le giron du groupe Sanofi, qui lui était propriétaire de Roger Gallet, Yves Rocher,
Mais avant d'aller Nina chez Ricci. Sanofi, il y a quand même une période d'indépendance.
Il y a une période d'indépendance. Mais la période d'indépendance, avec tout, n'a pas été très longue, parce que Opium a été un...
Peut-on être indépendant encore en France, ou c'est difficile?
Il existe des petites maisons indépendantes, mais ce sont plutôt des artisans. Mais je pense que c'est très difficile.
Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le personnage de Pierre Berger, moi j'ai l'image de Pierre Berger dans ses apparitions médiatiques, il y a un personnage plutôt froid. C'est pas quelqu'un, quand on le connaît pas, on va lui taper sur l'épaule en lui disant « Pierre », on dit plutôt « Monsieur Berger ». Il y a le contraste entre cette description que vous faites, il connaissait chaque personne de l'entreprise, des standardistes, les ouvrières, les stagiaires, leurs prénoms, il connaissait tout le monde. C'était un patron finalement très humain.
C'était un patron.
Alors que son image médiatique ne laisse pas transparaître cela.
Non, parce que je pense qu'il avait plusieurs vies. Il y avait d'abord sa vie avec Yves Saint-Laurent, qui était une vie d'une grande complicité, d'une grande, de grands secrets aussi entre eux. Et puis il y avait la vie de l'entreprise, qui était leur œuvre, leur enfant, avec toutes celles et ceux qui la faisaient vivre, pour lesquels il avait le plus grand respect. Et puis il y avait sa vie à lui, qu'il avait tenté de... qu'il a réussi d'ailleurs, en devenant président de l'Opéra de Paris, par exemple, en ayant créé les lundis musicaux de l'Athénée, le théâtre de l'Athénée Louis Jouvet, lorsqu'il avait repris également le théâtre Barreau-Renault, la maison de Zola, la maison de Cocteau. Donc Berger avait un amour... du beau et de protéger le patrimoine. Il a protégé beaucoup le patrimoine français.
Il a l'amour de son équipe. Vous racontez, par exemple, comment on fait les cadeaux de Noël. Il le faisait lui-même. Il faisait le tour de Paris pour trouver des objets vraiment insolites, qui soient vraiment un cadeau personnalisé. C'était pas le grand patron derrière son bureau qui dit à sa secrétaire, vous achetez 500 boîtes de chocolat de la plus belle marque et...
Non.
On va les distribuer. C'était pas ça.
Moi, j'étais à l'école du détail et de l'attention individuelle. J'ai appris ce qu'est le raffinement, et ce qui est le respect des autres, et ce qui est l'amour du beau. Alors, ça rend un peu maniaque.
C'est la définition du luxe ?
Ça pourrait
être. Le détail,
être.
L'attention individuelle.
Ça pourrait être une définition du luxe, en effet. Le luxe, qui est un mot un peu fourre-tout aujourd'hui, on met dans le luxe des choses qui ne le sont pas. Le luxe doit être aussi synonyme, parfois, d'une certaine rareté, me semble-t-il. La difficulté aussi d'avoir. Le luxe, c'est pas quelque chose que vous trouvez...
Ce n'est pas un téléphone portable.
Ça peut l'être si le téléphone portable est très rare et en effet, peut-être inaccessible. Mais en effet, c'est pas ça le luxe, pour moi.
Ce détail, cette attention individuelle, question plus personnelle, c'est aussi ce qui a caractérisé votre mandat quand vous faites de la politique. Puisque vous avez été maire du 4e, vous êtes conseiller de...
Petit adjoint à la culture, oui, de Bertrand Delanoë, 12 ans.
Oui, voilà. Non, mais voilà, est-ce que c'est aussi ce qui caractérise
cette démarche ? Je pense que, en tout cas, j'ai reproduit, en essayant de bien le faire, on ne fait rien parfaitement, évidemment, mais en faisant en tout cas des choses et en m'inspirant de ce que j'avais appris, en effet, dans mes années Saint-Laurent, mais également aussi auprès de Bernard Arnault, hein, pendant les 15 ans chez LVMH, où j'ai également beaucoup appris sur la rigueur, sur l'amour de la France, sur la beauté de Paris. Et j'ai pu, en effet, et c'est ce qu'avait souhaité Bertrand Delanoë, avoir des gens autour de lui, des élus qui venaient de la vie économique, de la vie réelle, de la vie aussi des difficultés, pour pouvoir stimuler, on va dire, le bien public. Et donc, en effet, je me souviens, cette mairie du 4e, c'était formidable. On avait en résidence des orchestres. On avait en résidence des compagnies de théâtre, il y avait deux salles d'exposition, et tout ça, le public, les habitants bénéficiaient chaque jour de la semaine. Donc quand on est élu, c'est aussi de faire pour l'intérêt général et surtout d'être à la disposition et de savoir protéger. Et ça, je l'ai appris aussi dans mes années Saint-Laurent, protéger les autres. Quand on est du bon côté de la barrière.
L'amour des autres, c'est ça finalement. Pierre Berger était quelqu'un d'assez anxieux quand il n'était pas là. Vous racontez toutes ces anecdotes. Fallait presque le mot est un peu trop dur, mais j'allais dire, fallait. Vous me corrigerez, cher Christophe Girard. Il fallait presque surveiller Yves Saint Laurent, quoi.
Oui, parce que le surveiller, le mot semble un peu infantilisant, mais le surveiller, c'était surtout prendre soin de lui. S'assurer que, comme il était souvent triste ou solitaire, de s'assurer qu'il n'était pas isolé dans sa tristesse. Donc voilà, c'était ça, le surveiller. C'était s'assurer qu'il allait bien.
Je ne suis pas psychiatre ni psychologue. Est-ce parce qu'il n'était pas bien et parce qu'il n'était pas normal qu'il était aussi grand et aussi géant ? Vaste question.
Vaste question sur le moteur de la création.
Vous dites bien, il est né mélancolique, il a été mélancolique toute sa vie.
Voilà, après, est-ce que la mélancolie, les épreuves de la vie sont un moteur ou l'explication du génie des uns et des autres ? C'est une question vaste, mais c'est vrai qu'il est rare de voir un créateur, que ce soit un musicien, une écrivaine, dont la vie ou l'enfance aurait été lisse. C'est rarement le cas.
Ou il aurait pu être né en colère, comme l'était Pierre Berger. C'est ce contraste entre ces deux caractères que vous soulignez dans le livre. L'un est né mélancolique, l'autre a eu le sentiment qu'il a toujours été en colère.
Oui, parce qu'il s'indignait. Berger avait une capacité d'indignation qu'il m'a transmise d'ailleurs, hein. D'où son engagement au début de l'épidémie de sida et tout au long de l'épidémie de sida, avec celle qui est devenue une grande amie à nous et que je salue, Kéline Renaud, puisque elle vient de lire ce livre, donc je sais qu'elle l'a et qu'elle l'aime, et que ce sont des années que nous avons partagées, puisque le SIDAction c'était avec elle. Et franchement, au départ, Berger, Lynn Renaud, c'était pas gagné. Voilà, c'était pas les mêmes univers. Et puis, ils sont devenus une belle amitié. Et pour moi, en tout cas, voilà, c'est une très grande dame.
Est-ce qu'on peut être un grand patron si on est en colère ? Vous avez cité, par exemple, Bernard Arnault. Le personnage de Bernard Arnault pour le grand public est très mystérieux. On ne le voit pas mélancolique, on ne le voit pas heureux, on ne le voit pas rigolo, on ne le voit pas en colère. On voit un capitaine d'industrie sobre, voilà, qui ne laisse jamais transparaître la moindre expression.
Et pourtant,
je parle vu du grand public.
Oui, mais pourtant, moi, des relations professionnelles que j'avais avec lui, il nous est arrivé dans nos échanges très professionnels, néanmoins, de pouvoir rire, d'avoir de l'humour, se poser des questions, et non, c'est un homme qui est plus sensible qu'il n'en a sans doute l'air.
Ce qu'il y a aussi dans ce personnage de Pierre Berger que vous décrivez, de tout là où il doit être fier de ce que vous avez fait, parce qu'il avait vraiment envie que dans l'éternité on perpétue le nom d'Yves Saint-Laurent, l'œuvre d'Yves Saint-Laurent. C'était, vous le dites, l'une de ses raisons de vivre, je pense.
Oui, et d'ailleurs, c'est pour cela que le premier exemplaire du livre, je l'ai fait porter à Madison Cox, qui était entrée d'ailleurs dans la vie de Pierre Berger et d'Yves Saint-Laurent dans les mêmes années que moi, dans les fins des années 70, parce qu'aujourd'hui, il est le président du musée Yves Saint-Laurent et de la fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent, et que s'il apparaît dans le livre, c'est évidemment naturel, mais c'est parce qu'aussi c'est quelqu'un qui veille sur l'œuvre et la mémoire d'Yves Saint-Laurent et son rayonnement, grâce à la fois au musée de Marrakech et les Jardins Majorelles, mais également, bien sûr, le musée Yves Saint-Laurent à Paris.
Il a dû être triste, Pierre Berger, à la fin de ses jours, en constatant, comme vous le dites, que la mondialisation a enlevé ce monde de la haute couture et que c'est devenu qu'un business, finalement.
Je vous pose cette question alors, parce que vous... Oui, bien vous sûr. Non, c'est une question très pertinente parce que moi, je me pose souvent la question de savoir comment réagirait-il à cette mondialisation, à cette parfois vulgarité quand même provoquée par les réseaux sociaux et l'ère numérique, avec toutes ses qualités mais aussi tous ses défauts. Comment il verrait cette fragmentation de la société, cette déconstruction de nos valeurs, comment il jugerait, comment il réagirait. Donc oui, je pense qu'il y a le regard esthétique d'Yves Saint-Laurent qui nous manque, le regard de celui qui aimait tant les femmes, et celui de Pierre Berger sur voilà, ce qui semble être parfois quand même un petit niveau.
Qu'est-ce qui a fait que Pierre Berger a eu des tentations dans la presse, hein, il l'a fait aussi dans certains journaux, qu'il n'ait pas pris le chemin d'André Rousselet?
Pierre Berger,
il aurait pu prendre le chemin d'André.
En tout cas, il a pris son chemin.
Vous voyez les similitudes mets entre les deux
compris,
personnes,
bien compris.
Proche de François Mitterrand.
Bien sûr, voilà. Et que moi j'ai eu la chance de connaître André Rousselet aussi. Pierre Berger, vous savez, avant de mourir, était l'un des trois actionnaires du journal Le Monde.
C'est pour ça.
Avec Mathieu Pigasse, bien sûr, j'ai bien compris. Et Xavier Niel. Donc, il est un homme qui aimait la presse. Il a fondé Globe. D'ailleurs, vous verrez que dans le livre, il y a tout un passage sur Globe, Georges-Marc Benamou, toute cette époque. Assez incroyable. Assez libre, assez audacieuse. Hein. Pierre Berger, c'était finalement grâce à sa rencontre avec Yves Saint-Laurent, qui lui a sans doute donné et montré et appris ce qu'est la création pure et le beau, au plus haut niveau, Pierre Berger en a fait quelque chose aussi dans d'autres domaines. Et donc, il était un homme à plusieurs vies. Mais une vie principale, celle, la sienne, avec Yves Saint-Laurent.
Vous racontez en toute transparence à la fin, comme les choses se sont un peu plus mal passé avec Pierre Berger. Est-ce que finalement, je veux pas faire de la psychanalyse à deux balles, mais bon, est-ce que finalement Pierre Berger, Yves Saint Laurent, vous étiez un peu leur enfant parce que vous les avez connus jeunes, il y avait cet écart, vous auriez pu être leur fils, Christophe Girard, et ils vous ont couvé, vous étiez dans le cercle d'intimité, le cercle de confiance, et puis quand vous quittez la maison, on le prend mal, quoi.
Oui, et je comprends d'ailleurs sa colère. Je l'ai trouvé parfois un peu injuste parce que ça avait des effets collatéraux sur mon entourage, mais les choses sont rentrées dans l'ordre et puis ce livre est aussi pour réparer peut-être la liberté que j'avais acquise et que j'avais décidé de prendre lorsque la maison a été vendue à François Pinault et à Gucci. Elle aurait pu être vendue également à Bernard Arnault, LVMH, mais c'est François Pinault qui l'emporta. Et c'est vrai que Pierre Berger ne voulait pas que nous allions dans la nouvelle aventure des nouveaux propriétaires. Et puis moi, j'avais été candidat...
Pourtant, aller dans l'aventure des nouveaux propriétaires, c'était aussi contribuer à veiller à
mais
être
il ne
l'œil.
Pas. Il ne voulait pas.
C'est ça ce que je ne comprends pas. Alors que normalement, il aurait dû vous pousser en disant « Sois le chien de garde, finalement. »
Oui, mais non. Non, je pense que... L'histoire telle qu'elle avait été construite, avec nous toutes et nous tous, était une histoire avec des acteurs et des actrices qui ne pouvaient pas aller jouer dans une autre pièce, au propre figuré d'ailleurs. Et donc, j'étais un peu le fils prodigue, mais je n'étais pas le seul.
Ça,
on était.
Question, oui.
Voilà, il y a Jean-Francis. Vous étiez
quand même le plus.
J'étais proche des deux, c'est vrai que je pense.
Votre bureau était entre les deux.
Oui, puis mon bureau entre leurs deux bureaux, mais il y avait aussi Jean-Francis Bretel, et puis il y avait des amis proches comme Quito Fierro, qui est décédé aujourd'hui. Il y avait des. Voilà, mais on n'était pas très nombreux, en effet, et c'est vrai que moi, c'était ma vie quotidienne avec eux deux, et je pense qu'il a vu Pierre Berger, pas Yves Saint-Laurent, puisqu'il me l'a. Il ne me l'a pas reproché, on s'est parlé après mon départ. Mais Pierre Berger avait vu mon départ comme une trahison. Donc ce livre répare, si je puis dire, et est là pour les remercier. Et transmettre ce que j'ai eu la chance de connaître et de vivre, c'est-à-dire le, le plus beau, avec parfois des zones d'ombre, après parfois des choses qui n'étaient pas forcément exemplaires. Mais j'ai eu tant de chance de connaître et d'avoir cette vie que je suis heureux de la transmettre par ce livre, au plus grand nombre.
Quand vous dites le mot trahison, je vais le corriger, tel un couple de parents qui ont été proches de leur fils pendant si longtemps, et 25, 26 ans, 27 ans, ils ont oublié que ce n'était qu'un fils et qu'il allait partir à un moment ou à un autre. Et quand la porte s'ouvre et il s'en va, ils le prennent un peu comme une trahison. C'est un peu ça, le sens de ce mot.
Oui, oui, bien sûr. Mais c'est parce que je veux assumer tout à fait le fait que c'est en... je me libérais aussi d'une certaine manière. Je les voyais vieillissants et je m'inquiétais d'être, comme avait dit Alain Minc, Pierre est une mante religieuse. Sois prudent.
Il vous dit, je peux être de mauvaise foi et un peu lâche, justement. Ce qui vous fait faire le sale boulot, rassurez-vous, c'est celui d'un secrétaire général dans toutes les grandes boîtes. Hein. C'est celui qui annonce les mauvaises nouvelles.
Ben oui, puis moi j'étais là, je faisais mon travail. Hein. Lorsqu'il me demandait d'annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un, je le faisais parce que c'était mon travail. Et une mauvaise nouvelle aussi, parce que c'était mon travail.
Aujourd'hui, qu'avez-vous envie que l'on laisse de traces de Pierre Berger, d'Yves Saint-Laurent? Le nom d'Yves Saint-Laurent reste, celui de Pierre Berger est moins connu, puisqu'il était, il est connu des gens de notre génération, hein, tellement on l'a vu. Mais Yves Saint-Laurent, qu'avez-vous envie que l'on dise? Vous avez vu tous les biopics au cinéma qui ont été faits, j'imagine que oui.
Alors j'ai fini par les voir, mais ce sont des biopics.
Oui. Donc, qu'en pensez-vous, justement?
C'est réalisé par des gens de talent, mais qui n'ont pas connu Yves Saint-Laurent et Pierre Berger. Et c'est pour ça que je suis très attaché, alors je suis parti pris puisque c'est le documentaire Célébration réalisé par mon conjoint, à la demande de Pierre Berger, réalisé en indépendant, qui s'appelle Célébration, et qui est un documentaire tourné pendant plus de 2 ans auprès d'eux, et qui montre la nature, la vraie nature. Et d'ailleurs, Bertrand Bonello aime beaucoup ce film Célébration. Je crois que ce film, il l'a dit, l'a inspiré pour réaliser son biopic. Mais je trouve que les deux films sont intéressants parce que quand on devient un personnage mythique, et Pierre Berger également, eh bien, il est naturel qu'on s'empare de ces personnages de l'histoire et qu'on les raconte comme on le souhaite, c'est-à-dire avec liberté, avec parfois également... une erreur d'appréciation, mais l'erreur d'appréciation, ça s'appelle le roman, le romanesque. Et je trouve que Gaspard Ulliel m'a beaucoup surpris parce que j'ai trouvé, et Dieu sait si Pierre Ninet est un excellent Yves Saint-Laurent incarné, mais j'ai trouvé Gaspard Ulliel très étonnant dans la peau d'Yves Saint-Laurent. Je l'ai trouvé très crédible et très proche, lui, qui pourtant ne l'avait pas connu.
Ce que j'ai apprécié chez vous, c'est que ce livre est fait avec, est écrit avec passion, avec amour, avec une grande tendresse, avec beaucoup de respect pour la marque Yves Saint-Laurent, pour ce qui a été fait, pour ce qu'il incarne, et ce qui fait que c'est uniquement à la fin peut-être des sujets plus tabous qui mériteraient, vous l'avez juste évoqué pour dire... J'en parle parce que je suis transparent, mais c'est pas la peine d'en faire plus, comme sur la cocaïne, par exemple, parce que tout le monde le sait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est tellement facile que de faire des pages et des pages pour se rendre intéressant au truc. Alors qu'on sait que c'est pour tout le monde. Franchement, il y a beaucoup de créateurs, des artistes, des politiques, c'est quelque chose qui touche tous les milieux. Franchement, il faudra me faire la liste de ceux qui n'ont pas touché à ça que de ceux qui ont touché. Ce sera plus simple. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne méritait pas plus. Voilà. Et vous l'avez très bien fait.
Merci beaucoup, parce que je pense qu'en effet...
Alors, c'est tout.
Dans une période...
On s'en fout, en fait.
Oui,
et
puis laissons chacun aussi... arrêtons de juger l'autre en permanence.
C'est ça.
On est entré dans un moment d'invective permanente, d'accusation permanente. Et je ne pense pas que d'être dans l'accusation permanente finalement aide les vraies victimes. Je pense qu'il faut être prudent, juste, vigilant, mais respectueux et ne pas juger en permanence.
Merci Christophe Girard d'être venu parler de ce livre merveilleux, La vie selon Saint Laurent de Christophe Girard. Vous qui avez si bien connu Pierre Berger et Yves Saint Laurent aux éditions Herscher, vous êtes venu en voisin parce que je sais que vous êtes aussi résident secondaire à La Baule.
Et avec une cabine de plage.
À Basse-sur-Mer, j'ai appris, c'est incroyable.
Place Saint-Michel, la jolie cabine de bois jaune dans laquelle j'ai mon canot et kayak et qui est finalement ma résidence secondaire.
Je vous dis merci et je vous pose une dernière question à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous pouvez botter en touche en disant, vous voyez, je vous laisse la porte de sortie en disant, je suis venu pour parler de mon livre, merci. Voilà, on arrête. Que pensez-vous justement, vous qui avez vécu tous ces combats sur la dépénalisation homosexuelle, etc., maintenant du wokisme, de cette culture, de la culpabilisation permanente, voilà.
Je suis inquiet. Et d'ailleurs, je suis inquiet parce que je vois en effet qu'en Hongrie, qu'en Italie, qu'aux États-Unis, il y a eu le président Trump, finalement, tous ces combats menés, et nous, le combat que nous avons mené, on était très nombreux dans les années SIDA, s'inspiraient du combat des femmes, s'inspiraient du combat des Noirs, s'inspirait de tous les mouvements de libération. Mais ça n'était pas pour segmenter la société et faire des groupes. Moi, je n'aime pas qu'on me réduise à une lettre de l'alphabet.
LGTBQ plus...
C'est QQ maintenant. C'est queer et question. Non, mais c'est... Voilà, si au moins il y avait de l'humour, ça... Voilà. Bien sûr que la parole libérée, c'est absolument nécessaire. Vous savez, moi, c'était pas très drôle quand j'étais adolescent et qu'il y avait un regard... sur l'adolescent que j'étais, dont on comprenait qu'il n'était pas exactement comme les autres, et qu'on m'imposait la virilité de mes cousins ou de mes oncles. Oui, j'ai vécu le patriarcat, j'ai subi le patriarcat, mais pas pour en faire un reproche permanent, mais pour en faire une force. Et une force, moi je le vois avec mes enfants. Nous, on est une famille de femmes, d'hommes, d'enfants, où chacun est ce qu'il est, mais nous ne voulons pas d'une société fragmentée. Nous sommes attachés à la devise de la République, celle de la liberté, de l'égalité, de la liberté et de la fraternité, bon, qui est un mot masculin, ou de la maternité si vous voulez, mais en tout cas, on est attaché à ces valeurs. Et puis on est attaché à l'état de droit. Alors, en effet, il faut donner des moyens à la justice. Il faut sans doute plus de juges et d'enquêteurs. Mais n'accusons pas à tort et à travers. Et ne nous mêlons pas des affaires que nous ne connaissons pas. Donc, je suis en effet inquiet. Parce que je pense qu'on accuse facilement le voisin ou la voisine et que ça rappelle des heures sombres. Qui étaient celles où on accusait son voisin parce qu'il était juif, parce qu'il était tzigane, parce qu'il était homosexuel et on sait où cela mène. Donc, réapprenons les leçons de l'histoire et puis demandons à la représentation nationale peut-être d'être un petit peu plus sérieuse.
Merci Christophe Girard avec ce livre magnifique, La vie selon Saint Laurent de Christophe Girard. Merci.
Merci Christophe Girard. Yannick Urien.